Agnès Aliagas.
David Doucan, votre invité, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, bonjour.
Bonjour François de Rugy.
Toujours plus de croissance, de consommation, des porte-conteneurs qui vont traverser l'Atlantique, plein gaz. Je vous parle de l'accord signé entre, conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. C'est ça la solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?
Non, ce n'est pas la solution. La solution, elle est dans les engagements conjoints de tous les pays. Et le fait que le Brésil s'engage à respecter l'accord de Paris alors que son président, M. Bolsonaro, qui est entré en fonction au début de l'année, voulait en sortir, ça c'est quelque chose de positif. Et c'est une conséquence indirecte de cette diplomatie du bras de fer, ou en tout cas du rapport de force que le président de la République française, Emmanuel Macron, a instauré en disant on ne signe pas d'accords commerciaux avec les États qui sortiraient de l'accord de Paris. Mais nous l'appliquons sur les États-Unis d'Amérique puisque nous avons rompu les négociations commerciales avec les États-Unis d'Amérique.
Ce qui n'empêchera pas l'Union européenne d'aller au bout des négociations. La France n'a pas de pouvoir de veto en la matière.
Non, mais à une époque, vous savez qu'il y avait une logique d'accord commercial global avec les États-Unis d'Amérique et cette logique a été stoppée.
Sur le Brésil, François de Rugy, vous dites ils acceptent de rester dans l'accord de Paris. On peut rester dans l'accord de Paris en détruisant 400 hectares de forêt amazonienne chaque jour. C'est ce que fait Jair Bolsonaro. En matière de lutte contre les émissions de CO2, la forêt amazonienne est indispensable.
Il s'agit évidemment de rappeler tous les pays, dont le Brésil, à leurs obligations. Quand on signe l'accord de Paris, c'est pas simplement le signer, c'est mettre en œuvre une politique qui permet d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de protection de la forêt amazonienne. D'ailleurs, vous savez que nous, en France, nous avons un morceau de la forêt amazonienne en Guyane. Nous la protégeons. Nous sacrifions un certain nombre, d'ailleurs, de projets économiques, comme le projet Montagne d'Or, pour protéger la forêt amazonienne. Eh bien, le Brésil doit aussi protéger la forêt amazonienne.
Mais il s'est engagé. Jair Bolsonaro, à arrêter la déforestation.
Ça fait partie du bras de fer.
C'est pas fait.
Et c'est pour ça que l'accord commercial qui a été signé avec l'Union européenne, pour moi, il n'est pas ratifié.
Voilà.
Et il ne sera ratifié que si le Brésil respecte ses engagements. Et par ailleurs, vous le savez, nous allons le décortiquer, cet accord. Et quand je dis nous allons le décortiquer, nous, les ministères les plus concernés, moi, le ministre de l'écologie, mais aussi le ministre de l'agriculture, par ailleurs aussi les parlementaires français et européens. Car je rappelle que cet accord ne peut entrer en vigueur que s'il est ratifié par le Parlement européen. Nous avons des députés européens exigeants sur le sujet.
Tous les parlements nationaux et le Parlement européen.
Mais en premier rang, le Parlement européen.
Et c'est ce qu'a dit Pascal Canfin, pourtant élu il y a quelques semaines.
Et
sur la liste,
le président de la Commission environnement au Parlement européen, et qui aura donc à décortiquer lui aussi cet accord.
C'est un engagement que vous prenez ce matin. Pas de ratification si vous constatez que le Brésil, par exemple, continue la déforestation.
Évidemment.
Vous y engagez.
Nous seulement nous y engageons, mais quand je vous dis nous allons le décortiquer, ça veut dire que tel qu'il a été négocié par la Commission européenne, qui en plus est en fin de mandat, donc il y a un problème de forme aussi. Ça, moi je le dis clairement, une Commission européenne en toute fin de mandat qui fait cet accord, eh bien évidemment la nouvelle Commission européenne, et surtout la nouvelle majorité au Parlement européen, aura à décortiquer cet accord avant de le ratifier.
On vous a entendu. Yannick Jadot, le leader d'Europe Écologie Les Verts, vous accuse le gouvernement, pour être plus précis, je le cite, d'être à la fois duplice et indigne sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Duplice et indigne, que lui répondez-vous ?
On avait pensé que M. Jadot avait pris le sens des responsabilités après son score important aux élections. Quand on réunit 13,5% des voix, on a une responsabilité particulière qui est celle d'agir. Pas simplement de parler, pas simplement de dénoncer, de protester, de s'opposer, de contester, celle d'agir. Malheureusement, je vois qu'il retombe dans les travers d'une radicalité des mots, d'ailleurs. Et je souhaite que le groupe vert au Parlement européen, dont il fait partie, qui souhaite lui travailler avec une nouvelle majorité dans laquelle nous sommes, dans laquelle il y a un large rassemblement pro-européen, qui devra faire plus pour l'écologie, à ce moment-là, qu'on travaille ensemble, qu'on laisse de côté cette surenchère verbale.
Indigne, selon vous, ça relève de l'insulte ?
Bon, en tout cas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce qu'on puisse dire, vous n'allez pas assez vite dans tel secteur, il faudrait être plus contraignant. Mais disons-le, à ce moment-là, concrètement, et disons-le aux Français ou aux Européens. Si on dit, demain, il faut interdire les voitures à essence ou diesel dans toutes les grandes villes, et il faut passer à l'électrique ou à l'hybride, il faut le dire concrètement. Il ne faut pas se contenter de dire, on ne fait pas assez pour le climat, il faudrait faire plus. Ça, ce sont des déclarations d'intention qui n'ont aucun effet concret.
Je pense que le parti de Yannick Jadot a des propositions, mais Parlons-en, allons sur le fond des sujets, parce qu'il y a cette notion de duplicité. En fait, vous êtes en permanence soupçonné d'un double langage, et il y a un texte, le vôtre, qui a été adopté vendredi concernant ce qu'on appelle les passoires thermiques. Oui. J'explique.
Enfin, une loi énergie.
Une loi énergie, à l'intérieur de laquelle il y a le sujet des passoires thermiques. Il faut expliquer à nos auditeurs.
Alors qu'il n'y était pas au départ, c'est une volonté des députés de la majorité d'introduire des dispositions pour l'efficacité énergétique des logements.
Attendez, vous allez répondre, mais il faut que nos auditeurs sachent de quoi nous parlons. Il s'agit de logements mal isolé et qui consomme énormément d'énergie, c'est au-delà de 350 kWh par mètre carré, et donc ça génère énormément de CO2, ces logements-là, ce qu'on appelle les passoires thermiques.
Et le des président, très lourdes en
le,
plus.
François de Rugy, le président de la République, alors qu'il était candidat en 2017, avait promis que ces passoires thermiques seraient interdites à la location d'ici 2025. Votre texte ne va pas du tout en ce sens, puisqu'il n'y a aucune sanction pour les propriétaires afin qu'ils fassent des travaux de rénovation avant 2028. Comment pouvez-vous expliquer aux Français que vous luttez réellement contre le réchauffement climatique ?
Vous savez, il y a deux approches. Soit on se fixe une mesure d'interdiction, par exemple, d'ici 10 ans, une dizaine d'années, et on dit jusque-là, bah, chacun se débrouille, puis rendez-vous en 2025. Et puis si en 2025, on se rend compte que l'objectif n'a pas été atteint, vous savez ce qui se passe en général. On donne un délai supplémentaire. C'est ce qui est fait, par exemple, sur l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées.
Ou sur la réduction du nucléaire.
Et donc, moi, je préfère, et ça a été aussi la volonté des députés de la majorité, de dire, voilà ce que l'on fait maintenant. Et il y aura, en effet, une mesure, en quelque sorte, un peu de voiture-balai dans un délai raisonnable, qui est de l'ordre d'une dizaine d'années, qui là dira de façon contraignante, parce qu'il faudra assumer une part de contrainte sur ce qu'on a appelé l'obligation de rénovation. Plutôt
2028.
Que de créer une interdiction sans moyens et sans aucun plan d'action d'ici 2025 ou 2028, on a préféré dire il y a une obligation de rénovation. Cette obligation de rénovation est inscrite dans la loi et elle se mettra en œuvre en plusieurs phases. Une première phase d'ici 2023, incitation, information, aide. De 2023 à 2028, là, on donne un cadre légal. Toute personne qui achètera un logement ou qui le louera, eh bien, saura si ce logement est conforme ou pas par rapport à la facture de chauffage. Oui. Et ensuite, il y aura en effet des mesures contraignantes qui viendront et qu'on prendra le temps de bâtir. Parce que vous savez, quand on parle de logement, c'est facile de brandir quelque chose. Mais selon que vous habitez à Paris, en plein cœur de Paris, où le logement vaut 10 000 euros le mètre carré, en moyenne, ou si vous habitez une maison dans la banlieue nantaise, ou si vous habitez une maison dans les Ardennes, on sait déjà que le prix du logement n'est pas du tout le même. Les moyens pour faire face aux travaux de rénovation ne sont pas, les mêmes. Selon que vous êtes en immeuble, dans une copropriété, vous en êtes dans un logement individuel. Et il faut faire face à toutes ces situations.
François
c'est pas une excuse pour ne rien faire. C'est une motivation supplémentaire pour trouver des solutions adaptées.
Avec précision, mais pardon, promesse non tenue. C'est pas grave ? C'est pas grave ? Le candidat Macron a été très clair.
Il y avait en effet cette idée qui avait été inscrite au programme. Moi d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit définitivement abandonnée. À un moment donné, il faudra donner des droits nouveaux aux locataires. Nous en donnons déjà en leur donnant l'information. Tout, c'est totalement nouveau. Hein. Toute personne qui louera un logement aura l'information sur la facture de chauffage, sur l'annonce. Oui. Pareil pour quelqu'un qui achètera. Et puis ensuite, d'avoir un droit vis-à-vis du propriétaire à exiger la réalisation de l'obligation
de travaux. Nous n'avons plus beaucoup de temps et je vous demande de répondre très brièvement, si vous le pouvez. Regrettez-vous votre réaction après l'évacuation, disons musclée, des militants écologistes vendredi dernier sur le pont Sully à Paris? Vous avez dit le temps n'est plus aux manifestations, vous avez justifié ou semblé justifier l'usage des gaz lacrymogènes, alors que le ministre de l'Intérieur lui-même a demandé une enquête qui a depuis été confiée à l'IGPN.
Mais la preuve que nous fonctionnons dans un état de droit, un état républicain, où en effet, même quand les forces de l'ordre interviennent légitimement, eh bien on fait une enquête. C'est tout à fait normal, c'est le bon fonctionnement de notre état. Moi, ce que je regrette surtout, c'est qu'on en arrive à ces crispations, à ces conflits, alors que on pourrait marcher main dans la main. Même, je veux dire, c'est des militants assez radicaux sur le climat. Bon, ils sont pour des mesures très fortes, très rapides. C'est leur droit. Et moi, je suis pour quelque chose de plus progressif, de plus acceptable par les Français. Mais ils pourraient aller voir des gens, aller voir des automobilistes en leur disant, bah voilà, vous pourriez changer de voiture, vous pourriez passer à la voiture électrique, vous pourriez passer à la voiture hybride, vous pensez que c'est trop cher, bah non, on va vous faire la démonstration. Je pense que ce serait plus utile que d'aller bloquer un pont une demi-journée.
François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, merci à vous d'avoir été mon invité ce matin.
David Doucan pour l'interview politique de la matinale.
Nico Saliagas sur Europe 1.